Matin Week-end.
Bonjour, bonjour à tous, bonjour à toutes. Mais comment allez-vous? Comment allez-vous en ce dimanche 19 septembre? Soyez les bienvenus, on vous informe et on vous accompagne avec beaucoup de plaisir. Merci d'écouter Europe 1. Il est 6h. Bon réveil à tous.
Europe Matin Week-end, Thierry Dagiral.
Mais voici toutes les informations que l'on va développer dans cette première édition. Va-t-on vers un assouplissement des restrictions sanitaires? L'exécutif en parle et le ministre de la Santé a fait un pas de plus hier. La colère de la France après la rupture de contrat des sous-marins, crise béante entre la France, les États-Unis et l'Australie. Jean-Yves Le Drian parle de mépris. Et puis le football, premier choc de la saison ce soir au Parc des Princes, le PSG reçoit Lyon. Il faudra être bon, ce seront les premiers pas de Messi au Parc. Vos rendez-vous de la prochaine demi-heure, 6h12, les pronostics de Thierry Léger. Puis l'interview de Philippe Legrand, une date, une histoire avec Gérard Lenormand ce matin. 6h23, on va partir en balade avec Vanessa et Marion Sauveur, d'abord en Franche-Comté, puis dans les Cévennes où l'on va déguster la châtaigne. Mais d'abord, la tendance météo. Bonjour Valérie Darmon.
Bonjour Thierry et bonjour à tous. Eh bien, il va pleuvoir durablement et assez sévèrement. Et oui, sur le centre et l'est du pays, le soleil qui persiste tout de même sur la Méditerranée et entre Lille et Metz, une petite poche ensoleillée. Le ciel qui est plus variable aussi qu'hier sur la façade ouest.
Merci Valérie. Météo complète à la fin de ce journal. Mais d'abord écoutez. Des applaudissements pour l'amérissage de la capsule Dragon dans l'océan Atlantique au large de la Floride. C'est la belle image de la nuit. Les quatre premiers touristes spatiaux de SpaceX ont donc regagné la Terre cette nuit après 3 jours dans l'espace. Succès donc pour cette première mission orbitale de l'histoire sans aucun astronaute professionnel à bord. Retour sur Terre avec à nouveau hier près de 200 rassemblements partout en France contre le pass sanitaire pour le 10e samedi consécutif. 80 000 personnes en tout selon le ministère de l'Intérieur. Et c'est dans ce contexte-là que l'exécutif semble vouloir desserrer la vis. Hier, c'est le ministre de la Santé Olivier Véran qui a évoqué à son tour un possible allègement des restrictions sanitaires d'ici quelques semaines. Jean-Sébastien Soldaini, que dit précisément le ministre ?
Eh bien, Olivier Véran évoque quelques pistes plutôt optimistes lorsqu'il constate qu'il n'y a pas eu de rebond épidémique après la rentrée scolaire. Nous pourrions alléger progressivement les restrictions, dit-il. D'abord, là où le virus circule le moins, un allègement qui pourrait notamment inclure la disparition du pass sanitaire. Mais Benjamin Davidot, médecin infectiologue à l'hôpital Raymond Poincaré de Garches, se veut plus prudent.
Il faut être lucide, on arrive sur la saison automnale et l'hiver, et donc il y aura une cinquième vague, ça paraît difficile d'y échapper. Je rappelle qu'il y a 64% de la population qui est entièrement vaccinée, et souvenez-vous, hein, on avait parlé de cette immunité collective, il faut aller des chiffres beaucoup plus importants, de l'ordre de 80%. Il faut rester sur cette lignée, encore une fois, 8 malades sur 10 qui arrivent à l'hôpital ne sont pas vaccinés, et que la vaccination divise par 10 la probabilité de se retrouver à l'hôpital.
Tout n'est pas derrière nous, poursuit ce médecin, Olivier Véran le sait, il affirme que c'est encore tôt, même si le ministre le souligne, des voyants sont au vert. Les contaminations baissent de 30% par semaine et pas de nouveaux variants plus contagieux apparus au cours de l'été.
Jean-Sébastien Soldaini, les excuses de la PHP qui a écrit aux patients concernés par la fuite de données personnelles. Cela touche 1,4 million de personnes ayant effectué un test PCR à la mi-mai 2020. On en reparlera dans le journal de 6h30. Les suites de la crise entre la France, l'Australie et les États-Unis après le torpillage de l'énorme contrat de sous-marins à Canberra. Le ministre des Affaires étrangères était hier soir sur le plateau du 20h de France 2. Jean-Yves Le Drian parle de mensonges et de mépris en justifiant le rappel des ambassadeurs français de ces deux pays.
Il y a eu mensonge, il y a eu duplicité, il y a eu rupture majeure de confiance, il y a eu mépris. Donc ça ne va pas entre nous, ça ne va pas du tout. Ça veut dire qu'il y a crise. Et à ce moment-là... Il y a d'abord un aspect symbolique, c'est qu'on rappelle nos ambassadeurs pour essayer de comprendre, mais pour en même temps montrer à nos pays anciennement partenaires que nous avons un très fort mécontentement, qu'il y a vraiment une crise grave entre nous. Et puis c'est aussi, lorsqu'ils vont venir, le moyen de réévaluer notre position pour défendre nos intérêts à la fois en Australie et aux États-Unis.
La colère froide de Jean-Yves Le Drian hier soir sur France 2. À Tarbes, le salon américain qui devait se poursuivre aujourd'hui a été annulé après la rixe hier entre bikers. Un homme est mort et deux autres sont blessés. Une enquête a été ouverte et l'auteur présumé est toujours en fuite. C'est une information Europe 1. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, va dissoudre la maison d'édition Nawa, centre d'études orientales et de traduction, maison d'édition qui est située en Ariège et qui publie des ouvrages qui font la promotion du djihad. Mais avant chaque dissolution, le ministre doit expliquer aux propriétaires les raisons de cette décision. Un document que vous avez pu récupérer, Louis Dragnel. Quels sont les arguments du ministre ?
En fait, il s'appuie sur deux arguments. Tout d'abord, l'incitation à la haine et à la discrimination. Dans le document que nous avons consulté, Gérald Darmanin écrit au sujet d'un livre signé par le vice-président de Nawa. Cet ouvrage légitime le recours à la lapidation en cas de rapport homosexuel, une lapidation aussi recommandée pour les femmes adultères. D'autres publications, traduites par le président de l'association en personne, défendent carrément la mise à mort ainsi que les violences envers des personnes refusant de prier et de se repentir. Dans le même registre, le ministre de l'Intérieur évoque la publication de livres antisémites incitant au meurtre et à l'extermination des juifs. Ensuite, le deuxième argument de Gérald Darmanin, la promotion d'actes de terrorisme. Il note que Sami Malki, le président de l'association, affiche clairement son engagement à promouvoir le djihad et les organisations terroristes. Le vice-président de l'association, d'ailleurs, toujours au sujet du djihad, parle d'un devoir des musulmans et loue la mort en martyr et l'État islamique.
Louis Dragnel, chef du service politique d'Europe 1, a noté que ce matin, l'invité du grand rendez-vous Europe 1, CNews, Les Échos, sera Jordan Bardella, le président par intérim du Rassemblement National. 6h06, on en a beaucoup parlé, on fête les 40 ans du TGV et en ce week-end des journées du patrimoine, la SNCF justement propose de nombreuses animations dans les gares avec à l'honneur les toutes premières rames et en particulier celles qui ont établi des records de grande vitesse. Aurélien Fleureau.
Génération TGV, génération au pluriel, 4 décennies au cœur du programme de la SNCF. Vous pourrez par exemple visiter les coulisses des gares Saint-Charles à Marseille, Saint-Jean à Bordeaux ou encore Nîmes-Pont-du-Gard, des gares TGV évidemment. La Cité du Train à Mulhouse va elle inaugurer une nouvelle exposition consacrée à la grande vitesse et de nombreuses animations sont prévues dès aujourd'hui à la gare de Lyon à Paris. Vous pourrez notamment découvrir la nouvelle maquette du futur TGV M et puis grâce à des cheminots passionnés monter dans les toutes premières rames de ces fameux TGV Orange, comme l'explique l'un d'entre eux, Antoine Leroy.
On va proposer aux visiteurs de monter à bord de la cabine de la rame numéro 16. C'est la rame qui a battu le record du monde en février 1981 à 380 km/h. Qui se rappelle qu'avant il y avait des cabines téléphoniques dans les années 90 et maintenant on en est à avoir des éléments TGV qui ont le Wi-Fi à bord. Donc on essaye de montrer toute cette évolution.
Et pour les amateurs de records, le technicentre de Villeneuve-Saint-Georges dans le Val-de-Marne va accueillir dimanche après-midi les 3 TGV qui ont établi les 3 records de vitesse 1981, 90 et 2007 avec pour la première fois les 3 conducteurs de ces trains qui seront réunis.
Aurélien Fleureau, spécialiste transport d'Europe 1. Le sport à présent, c'est l'un des premier choc de la saison en Ligue 1 de foot. Le PSG reçoit ce soir Lyon. Les Parisiens tenus en échec à Bruges cette semaine et qui auront à cœur de faire mieux pour la première de Messi au Parc des Princes. Jean-François Pérez.
Oui, le temps des baptêmes parisiens s'achève pour le meneur de jeu argentin et il ne pouvait guère rêver d'une plus belle affiche pour ses débuts à domicile. Lyon est l'un des principaux tourmenteurs du PSG version Qatar avec des matchs souvent spectaculaires. Malgré un début de saison difficile, l'entraîneur néerlandais de l'OL, Peter Bosch, ne fait aucun complexe.
C'est pas un test, c'est un match important pour nous. C'est un match très sérieux et comme j'ai dit, un match qu'on veut gagner.
La saison passée, Lyon avait gagné 1-0 et contribué à couper la route du titre aux Parisiens. Soirée cauchemar, Neymar s'était blessé, Thomas Tuchel vivait ses dernières heures d'entraîneur. Son successeur, Mauricio Pochettino, sait à quoi s'en tenir.
Je pense que ça va être un match difficile. Lyon est une très bonne équipe, avec de super joueurs. La rivalité est là. Bien sûr que ce sera dur.
Toujours privé de Verratti et de Ramos, le PSG pourra compter sur Messi, donc Neymar et Di Maria. Quant à Kylian Mbappé, touché au pied et incertain, une décision sera prise en fin de matinée.
Jean-François Pérez, le chef du service des sports, match à suivre bien sûr en intégralité sur Europe 1 ce soir avec toute l'équipe de Lionel Rousseau. Et puis à retenir hier, un derby du Nord mouvementé après des affrontements entre supporters. Lens a battu Lille 1-0. Et puis Bordeaux a signé hier soir sa première victoire de la saison à Saint-Etienne 2-1. Il nous reste bien sûr à voir la météo. Quel temps pour ce dimanche, Valérie? De la pluie?
Et oui, et des parapluies, voilà, de la Normandie et du sud du bassin parisien à la Bourgogne-Franche-Comté, au nord de l'Auvergne et tout Rhône-Alpes. Là, il va pleuvoir une grande partie de la journée. Les pluies sont marquées entre le centre Val-de-Loire, la Bourgogne, le Jura et les Alpes du Nord ce matin, et puis de la Normandie à la région centre cet après-midi. De la Bretagne au sud-ouest, le ciel reste encombré, mais moins qu'hier. Les averses sont plus fréquentes, de l'Aquitaine au sud du Massif central, localement orageuses en bord de mer. Le vent souffle sur PACA entre 60 et 80 km/h. Côté température, à l'heure qu'il y a, elles sont très contrastées. Elles sont en baisse de toute façon. Actuellement, 20 à Nice et 10 à Aurillac, à Brest et à Millau. 14 degrés à Tours, à Lyon, à Lille et à Clermont-Ferrand.
Eh bien, on ne va pas vers le meilleur temps. Merci.
On va vers l'automne. Vers l'automne, c'est normal.
Merci Valérie, à tout à l'heure. À suivre sur Europe 1, les pronostics de Thierry Léger. Ça se passe aujourd'hui à Vincennes. Puis Philippe Legrand reçoit Gérard Lenormand pour une date, une histoire. À tout de suite sur Europe 1.
Europe Matin Weekend, Thierry Dagiral.
6h, bientôt 11 minutes sur Europe 1. Prenez papiers et stylos, c'est l'heure des pronostics des courses. Bonjour Thierry Léger.
Bonjour Thierry, direction l'hippodrome de Vincennes pour ce quintet, une course européenne réservée exclusivement à la jante féminine. Et parmi les 14 partantes, je n'ai pas hésité à placer en tête de mon pronostic les numéros 8, Ora Essel, et 2, Antebride, deux juments italiennes qui, jugées sur l'ensemble de leurs performances, ont largement le niveau d'une telle épreuve. De plus, elles ont toutes les deux la particularité de s'être déjà imposées sur le parcours des 2100 mètres qu'elles emprunteront cet après-midi. On leur opposera les numéros 3, Gagnante Méloise, et 4, Galie du Goutier, classées dans cet ordre aux deux premières places le 12 août à Enghien et qui se retrouvent ici idéalement placé en première ligne, derrière l'autostart, le mode de départ de ce quintet. Ensuite, méfiez-vous d'Arbigan, le numéro 13, une Suédoise dure et tenace, taillée pour réussir à Vincennes, avec Favorite Darling, le numéro 6, sachant finir ses courses. Enfin, les numéros 1, Guérande, et 11, Adeline, peuvent compléter la combinaison gagnante de ce quintet, agrémenté d'une tirelire de 500 000 euros. Et oui, pronostic, 8, 2, 3, 4, 13, 6, As et 11.
Merci beaucoup Thierry.
Europe Matin Weekend, Thierry Dagiral.
Allez, une date, une histoire. Un invité revisite l'histoire, son histoire. Bonjour Philippe Legrand.
Bonjour à tous. Retour en 1953, à l'heure du sacre de la reine d'Angleterre. Bonjour Gérard Lenormand.
Bonjour Philippe.
Chanteur, auteur, compositeur, vos tubes sont dans le cœur des Français, des incontournables de la chanson populaire qui vous font entrer dans tous les foyers. De Michel à la balade des gens heureux au gentil dauphin triste, en passant par Si j'étais président, vos chansons prennent l'air du temps, la température de la société, souvent avec un ton d'avance. Vous qui avez manqué d'amour pendant votre enfance, entre l'orphelinat et le questionnement sur vos origines, vous choisissez de le chanter. L'amour en majuscule vous vaut d'incarner aux yeux du public le chanteur romantique par excellence. Votre nouvel album « Le goût du bonheur » s'inscrit dans cette veine à la suite de vos millions d'albums. Aujourd'hui, vous avez choisi de revenir sur la date d'un sacre, le 2 juin 1953. Élisabeth II devient reine d'Angleterre. Quelques temps après, elle est en visite en France. Ses premiers mots au micro d'Europe 1.
Monsieur le Président, je suis profondément émue, ainsi que mon mari, de votre généreux accueil. Vos paroles nous ont rappelé à tous deux des souvenirs qui nous sont chers. En cette même saison, au printemps de 1948, nous avons eu la joie d'être reçus à Paris à l'occasion de notre toute première visite ensemble, au dehors de notre propre pays. La gentillesse, la gaieté de cœur et la générosité étaient alors telles que nous les retrouvons chez vous aujourd'hui. Et nous vous en disons de tout cœur, merci.
La voix de la reine d'Angleterre, hein. Peu de temps au fond après son couronnement, vous avez fait ce choix d'une date, on va y revenir, le 2 juin 1953, mais cette voix incroyable, à la fois posée. Superbe. Et cette maîtrise de la langue française.
Et ce français, oui, c'est merveilleux.
Une voix, et puis aussi ces mots qu'elle choisit au fond, évidemment avec diplomatie, mais pour souligner cet art de vivre
non,
à la française.
Non mais il y avait du plus quand même, c'était plus que... un petit discours, quoi. C'était, c'était fort. C'était une forme d'engagement aussi, enfin, d'échange, de bel échange. Et j'aime bien ces genres de ping-pong-là, moi.
Un partage dans l'échange, hein, Gérard Lenormand, avec la reine d'Angleterre qui arrive en France, c'est ce qu'on entend là dans cette archive d'Europe 1. Le 2 juin 1953, vous étiez jeune, et vous avez fait ce choix d'une date, le couronnement de la reine d'Angleterre, c'était à l'abbaye de Westminster à Londres. Pourquoi ce choix et
mais cette j'étais date pas à l'abbaye, moi.
Vous étiez à Paris.
J'étais à Paris, mais j'habitais rue d'Henri-Mont. Et ce jour-là, pour cet événement d'ailleurs, et grâce à cet événement, un grand magasin qui commençait seulement à vendre des télévisions avait mis des télévisions dans sa vitrine, ce qui fait que les gens s'arrêtaient pour regarder, parce que c'était le couronnement de la reine.
C'était l'événement.
C'était l'événement du siècle. Et donc, et moi, j'étais haut comme trois pommes. J'ai toujours été petit, mais là, j'étais haut comme trois pommes parce que j'avais 7-8 ans, je ne sais plus très bien. Et donc, et je voulais voir ça, c'était fabuleux. D'abord, c'était la télévision aussi que je voulais voir.
Ah oui, c'est
je
ça,
connaissais
une première.
Pas. C'était une ma première télévision, c'était ouais. Là, donc dans la rue, à l'angle de la rue Caulaincourt et d'Henri-Mont. Et donc, voilà. Et je n'arrivais pas à m'approcher. Et en plus, ce jour-là, il s'est mis à tomber des cordes quasiment toute la journée. Le seul endroit où j'ai pu voir enfin la télévision et la reine d'Angleterre, le couronnement de la reine d'Angleterre, c'était sous une gouttière. Et j'ai passé plusieurs heures à attendre, à vouloir voir cet événement. J'étais bien arrosé ce jour-là.
Une première à la télévision, une vraie première en mondiovision, il faut le dire aussi, parce qu'il y avait des moyens techniques, les premiers moyens techniques de l'époque, avec deux types de caméras à l'intérieur de l'abbaye.
Il y avait
effectivement pour la télévision, donc la BBC, et retransmettant dans le monde entier des caméras pour le noir et blanc, parce que c'était un événement à la télévision en noir et blanc, mais aussi des caméras de cinéma pour la version en couleur qui est arrivée bien plus tard.
Alors j'ai une chose qui m'échappe, je ne sais pas quel était le journaliste, enfin le chroniqueur.
Le Léon Zitrone de l'époque.
Eh bien, c'est ce que. Oui, mais il me semble tellement que c'était Léon que j'ai toujours pensé encore et encore que c'était Léon. Mais peut-être que c'était un petit peu trop tôt pour lui. Je ne sais pas.
Mais Gérard Lenormand, ce 2 juin 1953, tel que vous décrivez la façon dont vous l'avez vécu, derrière la vitrine, au fond, près de la gouttière, vous n'entendiez pas?
Plus ou moins, si. Il y avait, ils n'étaient pas bêtes. Ils avaient mis un petit peu de son quand même. Non, si. Il y avait le speaker qui racontait aussi et qui présentait. Enfin, genre Léon Zitrone. Je sais pas qui était ce monsieur, mais en tout cas, c'était déjà un Léon.
Le son était suffisamment fort, en tout cas, pour
oui, entendre. On entendait tout.
Elle était jeune, hein, à l'époque. Bah, la reine
gamine.
25 ans.
Hein. Ouais.
Elle avait 25
reine,
ans.
C'est...
Il a fallu 14 mois de préparation et puis dans ces préparations évidemment des répétitions et le choix d'une robe particulière aussi, hein, il fallait des tenues et c'est un certain Norman Hartnell qui a été choisi pour préparer justement la tenue de la reine d'Angleterre.
Vous en savez plus que moi là.
Pas certain, parce que quand on vous entend, on vit ce moment-là.
Oui.
Et encore une anecdote, vous êtes comme ça sur le boulevard dans ce quartier parisien, beaucoup de monde. Est-ce que tout le monde était attentif ou est-ce qu'au fond, il y avait des commentaires autour de vous, de ces adultes qui étaient agglutinés devant la vitrine?
Alors, je vous rappelle qu'il pleuvait ce jour-là, il a plu tout le temps. Et donc, beaucoup de gens, quand même, se sont agglutinés. Eux, les trois quarts, avaient au moins un imperméable. Moi, je n'avais rien, j'avais juste une toute petite chemisette qui a été trempée dans les 30 premières secondes. Et donc je suis resté le plus longtemps possible parce que je ne pouvais pas lâcher cet événement. Pour moi, c'était de la magie. La télévision, donc on n'avait jamais vu ça. Et c'était du cinéma, mais... En petit modèle.
Oui,
quoi.
Dans la lucarne.
Oui, c'est ça.
Du téléviseur.
Et ça a été la naissance de la fameuse lucarne. Et pour moi, c'est le souvenir parfait parce que, bon, l'événement Et en plus, cette magie de l'image, du vivant, du direct, c'était très impressionnant. On voyait instantanément ce qu'il se passait à Londres, etc., ce jour-là. Fabuleux, et dans le monde entier.
Gérard Normand, est-ce que vous diriez, allez, un petit clin d'œil avec votre nouvel album, le titre de votre nouvel album, que c'était déjà le goût du bonheur?
Ah bah oui. Bien trempé, mais je m'en suis bien sorti. Je pense quand même que j'ai pris une petite crève.
Le goût du bonheur, c'est votre nouvel album. C'est pas un de plus, hein, c'est un album. J'ai entendu dire que vous disiez c'est l'album de la maturité.
Il y a, oui, effectivement, il y a un peu ça. Mais suis-je vraiment mature? C'est la grande question.
Vous m'avez fait cette confidence hors antenne. On vous appelle le sale gosse.
Oui, le sale gosse. Oui, je crois que je suis... C'est inné en moi, ça. Je reste toujours dispo à toute blague, plaisanterie, humour. Pas toujours très bon, d'ailleurs. Mais j'aime plaisanter. Et puis, je crois que enfant, il fallait que je sois comme ça. Ça m'a beaucoup aidé. Parce que, bon, alors j'étais un peu provocateur pour les professeurs, les gens d'école, etc. Mais en même temps, je pense que j'étais un bon enfant et on m'a toujours considéré, malgré tout, comme un bon enfant. J'étais pas... je cassais rien, quoi. Mais il fallait que je m'amuse et que j'amuse les autres.
Merci d'avoir été avec nous, Gérard Lenormand.
Non, c'est moi qui vous remercie.
Et une date, une histoire, merci à vous, Philippe Legrand. 6h21 sur Europe 1. Dans un instant, on part en balade, en Franche-Comté, dans les Cévennes. Mais tout de suite, on vous accompagne en musique sur Europe 1.
Europe Matin Weekend. Thierry Dagiral.
Les balades du week-end, ce dimanche matin, avec Vanessa Aza et Marion Sauveur. Bonjour mesdames.
Bonjour.
Vanessa, on commence avec vous. On va partir en Franche-Comté, randonner sur la route du sel et découvrir un autre bijou du patrimoine. Et sans ce week-end, bien sûr, des journées du patrimoine.
Alors cette route, c'est la route du sel. Ouais. La Via Salina, c'est une grande route touristique qui partait des Salines du Jura pour arriver jusqu'en Suisse, jusqu'aux acheteurs suisses, exactement, à Berne. Alors cette vie, on peut toujours l'emprunter à vélo, à pied, en voiture évidemment. Et comme vous le disiez justement Thierry, bah c'est l'occasion de passer en ce moment par des hauts lieux du patrimoine jurassien. Moi j'aime beaucoup Ornans. Pourquoi? Parce que c'est cette vallée de la Louque à croquer Courbet. Ouais. Et puis Salins-les-Bains. Voilà. Alors Salins-les-Bains, on part entre Salins-les-Bains et Arc-et-Senans. On va longer le Saumoduc. Le Saumoduc, c'est la canalisation qui a cheminé en fait l'eau salée et la saline. Cette canalisation, elle était faite de bois. Il fallait quand même 15 000 troncs d'épicéa mis à bout en fait pour le construire. Et ce sentier, on l'appelle le chemin des Gablous.
Des Gablous,
Et ben en fait, Gablous, c'est le nom qu'on donnait aux gardiens, les gendarmes du sel. Ouais. Ils étaient employés de la ferme générale. Et donc vous l'avez compris, Gablous vient de Gabelle.
Gabelle. Hein,
voilà la fameuse taxe sur le sel. Alors ce sentier, il fait une vingtaine de kilomètres, ça équivaut à une bonne journée de marche, et il y a un spot qui mérite une halte. Écoutez notre guide, c'est Grégory Lemoine.
Alors là, on est tout près de Port-l'Aîné, sur le sentier des Gablous. On a la Loue à notre droite et cette petite cabane, ce petit vestige d'un poste de contrôle de Gablous. C'est le seul d'ailleurs restant sur les 7 qui avait été implanté pour contrôler la canalisation et notamment lutter contre la contrebande. Et ce qui est intéressant dans cette zone, c'est qu'on a la Loue à droite avec des magnifiques plages pour à la fois faire du sport nautique. Et après, on n'est plus très loin de la Saline Royale d'Arc-et-Senans, qui est un joli point aussi pour prévoir une bonne journée randonnée et à la fois musée.
Mmh. Vous la connaissez ou pas cette année? C'est un chef-d'œuvre de l'architecture. Il faut savoir que l'architecte Claude-Nicolas Ledoux était un visionnaire du siècle des Lumières, parce que cette manufacture, elle avait été commandée par Louis XV. Mmh. Et pour rendre hommage à la royauté, il a décidé de faire quelque chose de très symbolique, de la construire en demi-cercle, ce qu'on appelle une architecture panoptique. En fait, l'arc solaire tout blanc permettait déjà de voir toutes les personnes qui pouvaient rentrer sur le domaine, et puis surtout d'avoir de la lumière du lever au coucher du soleil. Ouais, voilà, oui. Sur tout le diamètre. Parce que figurez-vous qu'il y a des gens qui vivaient là-bas. Il y avait tous les corps de métier qui étaient représentés. Ils étaient logés dans les 11 bâtiments. C'était une usine, une mini-société intégrée qui vivait en autarcie. Ils avaient même leur propre potager et puis même un mur d'enceinte pour justement garder cet or blanc.
J'adore ces balades parce qu'on se balade, mais on apprend des choses.
On apprend des choses.
Allez, quelques adresses rapidement.
Et ben on reste à la Saline Royale parce qu'on peut y dormir. En fait, les chambres ont été revisitées par Jean-Michel Villemotte et il a gardé toute cette âme, cette architecture aussi pure que celle du soleil dans sa course.
Merci Vanessa. Marion Sauveur avec vous. On va partir dans les Cévennes pour déguster. Déguster quoi?
Eh ben, un fruit, puisque c'est un incontournable de l'automne. L'automne, c'est mercredi.
Ah oui.
Alors, c'est le début de la saison, c'est la châtaigne.
Ça sent mauvais, ça sent l'hiver qui arrive.
Mais non, mais ça sent bon
il
la châtaigne.
Il n'y a pas de feu de cheminée encore en
non,
revanche.
Pas encore, non, pas encore.
Châtaigne clémentine, on est foutu.
Alors, depuis un an, la châtaigne des Cévennes a obtenu l'appellation d'origine contrôlée. Elle devrait obtenir la récompense européenne tout bientôt, dans quelques mois, on croise les doigts. Elle va donc rejoindre les châtaignes de l'Ardèche AOP, une autre AOP, la farine de châtaigne de Corse, ou encore l'indication géographique protégée pour le marron du Périgord. Et les premières châtaignes sont donc en train de tomber. Pour les châtaignes de l'appellation, il faut quand même attendre début octobre.
Marion, il y a une particularité pour la châtaigne des Cévennes.
Oui, elles sont plus petites, petit calibre, un goût assez sucré et puis une peau qui s'épluche facilement. Ça, c'est bon à savoir. Alors ces châtaignes, elles poussent aussi sur les pentes, hein, dans les Cévennes. Ce sont des arbres centenaires, bien résistants, qui ont été implantés au Xe siècle dans la région par les moines. Mmh. Alors aujourd'hui, on utilise donc dans ces pentes un filet pour récolter ces châtaignes. Il est posé au sol. On ramasse ensuite les bogues à la main. Mmh. On sépare les bogues des fruits avec une ébogueuse, c'est comme ça que ça s'appelle. Avant de les mettre à tremper pour enlever les mauvais fruits, ceux qui remontent, on les enlève et on garde que ceux qui sont au fond.
Allez, faites-nous saliver. Comment on peut les manger, ces châtaignes?
On peut les manger fraîches, en velouté par exemple, ou grillées à la poêle. Ça, c'est effectivement, ça rappelle l'hiver, mais c'est tellement bon. Et puis, dans les Cévennes...
On est foutu, l'été est en train de disparaître.
Mais non, ah ouais, c'est châtaigne potiron.
Mais en velouté, justement, ça fonctionne très bien. Et dans les Cévennes, il y a une spécialité, ce sont les châtaignes séchées. Traditionnellement, ça se passe dans des clèdes. Ce sont ces bâtiments en pierre sèche, magnifiques. Il faut les voir si vous pouvez. Il y a un feu à l'intérieur. Ça dure entre 5 et 7 semaines pour les faire sécher. Elles vont donc se déshydrater. Et une fois sèches, on va enlever la peau des châtaignes. Mmh. Avant, ça se faisait avec des chaussures, avec des clous. Et ces châtaignes, on les appelle les bajanes, comme ça, dans les Cévennes. Et donc, on peut manger notamment la bajana. Je vous laisse aller la découvrir,
la
Thierry.
Avec vos chaussures.
On trempe les châtaignes dans l'eau, on rajoute un petit peu de lait et on mange comme ça. Ce mélange, c'est un délice.
Allez, c'est bientôt l'hiver. Bon appétit. Merci beaucoup.
C'est l'automne.
Merci à vous, mesdames. Bon dimanche.
Bon dimanche.
Europe 1. Alors peut-être pourrons-nous bientôt revisiter Notre-Dame de Paris.
En tout cas, une messe pourrait bien y être célébrée en avril 2024. C'est un peu loin, certes, mais les travaux de sécurisation sont terminés et cet hiver, la reconstruction de la cathédrale va débuter. Ce week-end, les Journées du patrimoine mettent justement en lumière tous ces métiers qui ont permis que l'édifice ne s'effondre pas intégralement. Reportage Nicola Fellman.
C'est la première fois que tu fais ça?
Oui.
T'as pas peur?
Si, un peu.
Un peu quand même, hein.
Face au vide, le pas du petit Gilbert, 11 ans, est un peu hésitant. Perché sur un échafaudage à 6 mètres de haut, harnaché, casque sur la tête, il découvre le métier de cordiste.
Tu veux être cordiste, toi?
Bah, je sais même pas c'est quoi le métier, en fait.
Alors nous, le métier de cordiste, tu vois, c'est on est suspendu sur une corde et on va dans les endroits où c'est pas accessible pour tout le monde.
Ce qu'on va te demander de faire, c'est de t'asseoir dans la sellette.
Ouais.
Et c'est parti.
Youhou! Alors, c'est comment?
Bien.
Lui, il est à l'aise. Ah, c'est un futur chez nous.
Sur le parvis, tous ces professionnels de l'ombre accueillent le public. Tous les corps de métier engagés dans la restauration de Notre-Dame sont représentés. Charpentier, architecte, échafaudeur. Jérémy Patrier-Létus est à l'origine de ce village des métiers. Il est directeur culturel de l'établissement public en charge de la restauration de la cathédrale.
C'est des métiers qui sont souvent méconnus, qui manquent de bras. Aujourd'hui, on manque énormément de charpentiers, par exemple. Et donc, si on peut profiter de la visibilité de ce chantier pour convaincre les jeunes de s'engager dans ces métiers qui sont passionnants, on aura réussi notre mission.
Et le directeur de raconter l'histoire de Tristan, un jeune fasciné par un reportage sur la sécurisation de Notre-Dame. Depuis devenu cordiste, il vient d'achever une mission de 10 mois sur le chantier de la cathédrale.
Et on le rappelle, après ce journal, Thierry, Monseigneur Chauvet sera avec vous, c'est le recteur de Notre-Dame de Paris et les Journées du patrimoine qui se poursuivent encore aujourd'hui.
Alors à présent, le coup de pression hier des chasseurs, et cela à 7 mois de la présidentielle.
Ils ont manifesté partout en France, ils protestent contre l'interdiction de certaines techniques traditionnelles de chasse d'oiseaux, car 42 000 personnes dans le pays, 16 000 environ à Mont-de-Marsan dans les Landes et 12 000 à Amiens.
Et voilà l'année qui fait presque autant de monde que les manifestants contre le pass sanitaire.
Oui, la mobilisation dégringole. 80 000 personnes ont défilé dans le pays. Ce sont les chiffres du ministère de l'Intérieur. Alors que ce matin, Olivier Véran confirme dans Le Parisien que le gouvernement envisage bien un allègement des restrictions sanitaires. D'abord dans les zones où le virus circule le moins, puis partout sur le territoire.
Alors en parallèle, on a appris cette semaine que des données de Français qui ont effectué un test PCR l'année dernière avaient été piratées.
Les victimes ont reçu un mail de l'assistance publique des hôpitaux de Paris pour les prévenir de ce vol. Mais à quel type d'arnaque il faut s'attendre ? Explication Thibaut Hue.
La fuite de données est massive. 1,4 million de personnes se sont fait dérober nom, prénom, numéro de sécurité sociale et coordonnées téléphoniques. Le tout disponible sur une plateforme de téléchargement en Nouvelle-Zélande. Ce Parisien fait partie des victimes, il est en colère.
Je sens comme un viol. Vous savez, quand quelqu'un vous cambriole, c'est pareil, c'est la même chose. On m'a volé mon intimité, vous voyez, parce que là, il y a tout. Tout est écrit. Et là, je me retrouve dans le monde entier avec mon nom, prénom, mon adresse. Bah, ça me fait un peu peur, hein, quand même.
Cet immense carnet d'adresses va certainement être revendu par les hackers. Paul-Olivier Gibert est président de l'association des correspondants à la protection des données. Selon lui, les risques sont minimes pour les victimes.
Les données perdues sont des données qui sont finalement assez limitées. Plutôt que de s'inquiéter, être vigilant sur effectivement un certain nombre de mails ou de SMS que l'on peut recevoir. Ces numéros de téléphone peuvent être réutilisés pour des tentatives d'escroquerie.
Aucune donnée médicale n'aurait été volée, rassure l'assistance publique des hôpitaux de Paris. Une plainte a été déposée.
Jean-Yves Le Drian ne décolère pas après que Canberra a mis terme à un méga contrat d'achat de sous-marins français de 56 milliards d'euros. Duplicité, rupture majeure de confiance, crise grave, le ministre des Affaires étrangères a dénoncé hier soir au journal de 20h un mensonge et un mépris de la part de ses alliés.
Alors à présent, direction Nantes, ça peut sembler surprenant, mais un site naturel d'escalade vient d'ouvrir ses portes.
En plein centre-ville, pas franchement une ville posée au milieu des montagnes, 60 voies d'escalade sont à découvrir. Reportage Charles Guyard.
Le casque vissé sur la tête et une dizaine de mousquetons accrochés au baudrier. Hervé Silliol, cadre technique à la Fédération d'escalade, se lance.
Alors on va partir dans la voie, c'est l'éperon.
Quelques immeubles autour, une route en contrebas et la Loire qui coule juste en face. Loin des sommets alpins ou pyrénéens, nous sommes ici en plein cœur de Nantes, dans une ancienne carrière où plus d'une soixantaine de voies sont accessibles aux grimpeurs, de plus en plus nombreux en loisirs et en compétition, et ce dès l'école. Philippe Bravard, autre cadre fédéral.
C'est le troisième sport scolaire maintenant. Il y a des murs dans beaucoup de collèges et lycées. On peut avoir des maternelles, hein, c'est ce qu'on appelle la baby escalade. Il y a une masse de pratiquants et il y a une pénurie de sites.
Et pour y remédier, l'investissement est somme toute assez modeste. Hein, comme le confirme Francky Trichet, il est en charge de la pratique sportive à la métropole nantaise.
On a mis 50 000 euros pour sécuriser le site et pour consolider toute la falaise. Et aujourd'hui, pour 50 000 euros, on a quand même un espace de pratique sportive libre en plein cœur de ville.
Et la Loire-Atlantique compte ainsi 2000 licenciés, un chiffre en hausse depuis 10 ans et qui devrait encore progresser avec l'entrée de l'escalade au JO de Tokyo cet été.
Ok, c'est bon, tu peux descendre.
Nantes, Charles Guyard, Europe 1.
Et aussi ont désormais les pieds sur terre. Les quatre premiers touristes spatiaux de SpaceX ont retrouvé le plancher des vaches. Ils ont passé 3 jours dans l'espace.
Fin de la polémique qui avait rendu fou, on s'en souvient, les supporters du PSG. Phil Collins revient au Parc des Princes dès ce soir.
Oui, un sacrilège, la colère des fans du Paris Saint-Germain quand ils ont découvert que l'hymne accompagnant les joueurs sur la pelouse depuis 92 avait été remplacé. Cyril de la Morinerie, l'affaire avait fait beaucoup, beaucoup de bruit.
Oui, samedi dernier au Parc des Princes, c'est cette musique de DJ Snake qui a accompagné l'entrée des joueurs. En tribune, c'est la consternation. Des sifflets se font même entendre. Car depuis 1992, c'est bien le titre Who Said I Would de Phil Collins qui était diffusé. Philippe ne ressent plus aucune émotion.
Avant j'avais des frissons, maintenant j'en ai plus. Parce que maintenant les gens ils tapent même plus dans les mains. Nous, notre musique c'est Phil Collins, c'est rien d'autre en fait. Ça enlève l'ambiance au début du match.
Le PSG voulait apporter un coup de jeune avec un artiste francilien écouté dans le monde entier. C'est raté. D'autant que DJ Snake, grand supporter du Paris Saint-Germain, s'est dit opposé à l'utilisation de sa musique pour l'entrée des joueurs, car elle n'est pas adaptée. C'est aussi le sentiment de Dany.
Je suis musicien moi-même. Maintenant, le coup du DJ, ouais, c'est un peu bizarre. Quoi. Ça ne correspond pas. Le club, il a 50 ans. Le mec, il arrive tout nouveau. Cette musique ne me parle pas. Monsieur Phil Collins, c'est un maître en la manière. Ouais. Et cette chanson, elle est vraiment faite pour le sport.
Mais une pétition a réuni plus de 3000 signatures et le PSG a fini par rétro-pédaler ce soir. Phil Collins résonnera au parc. Frisson garanti.
1, DJ Snake, 0. C'est aussi bien comme ça, non? Je ne sais pas ce que vous en pensez,
Thierry. C'est vraiment bien, oui. Exactement.
Les Parisiens, qui on l'espère sera une tradition pour eux aussi, battront peut-être Lyon ce soir, clôture de la 6e journée, après quand même une entrée en matière médiocre en Ligue des Champions cette semaine. On va suivre ce match en direct et en intégralité sur Europe 1. Hier soir, Bordeaux a gagné à Saint-Étienne 2-1 et puis Lens a remporté son premier derby en 15 ans face à Lille 1-0. Mais le match a été interrompu une demi-heure après l'envahissement du terrain.
Et c'était le journal de Lénaïque Monnier. Merci à vous Lénaïque. La météo à présent, Valérie Darmon. L'automne, ça ne sent pas bon, pointe le bout de son nez, les températures, elles baissent.
Ouais, c'est ça, vous pouvez me le refaire là. Alors ce matin, vos thermomètres entre 9 et 14 degrés en général, 15 à 18 en bord de Méditerranée. Dans l'après-midi, la baisse des valeurs donc qui se généralise. Prévoyez 18 à 22 sur une grande partie de la France, 23 à 24 sur l'extrême nord, 24 à 27 autour de la Grande Bleue, mais encore tout de même 23 à Lille et à Paris, 25 à Nîmes et Perpignan, 19 degrés à Saint-Brieuc, à Brest et à Châteauroux par exemple.
Merci beaucoup Valérie Darmon, à tout à l'heure. À suivre, l'édito d'Hervé Gattegno, Emmanuel Macron en campagne, point d'interrogation. Et puis, mon invité, Monseigneur Chauvet, la rénovation de Notre-Dame, de la cathédrale Notre-Dame. C'est parti.
Europe Matin Weekend, Thierry Dagiral.
Il est 6h40 et j'accueille Hervé Gattegno. Bonjour Hervé.
Bonjour.
Alors on parle beaucoup de la candidature d'Éric Zemmour, de la primaire des écologistes pour désigner leur candidat, du choix que devra faire la droite pour son propre candidat. Vous parlez, Hervé, ce matin d'un autre candidat, Emmanuel Macron. Vous avez une info ou pas ?
Il n'y a pas besoin d'avoir une gorge profonde à l'Élysée pour le savoir. Hein. Évidemment qu'Emmanuel Macron est candidat à sa réélection et il est même déjà en campagne. On voit l'agitation des leaders de sa majorité pour avoir un rôle important. François Bayrou, par exemple, propose de réunir tous les macronistes dans un seul parti. On devine qui en serait le chef. Bientôt, Édouard Philippe va créer le sien. Ce sont les grandes manœuvres qui commencent. Et puis, ce qu'on voit aussi, c'est la distribution d'argent public aux policiers, aux agriculteurs, pour la ville de Marseille, le chèque énergie, pour les infirmières. Heureusement qu'on a annoncé la fin du quoi qu'il en coûte, parce que sinon on se demande ce que ce serait. L'idée, c'est de satisfaire le plus de catégories le plus longtemps possible. Emmanuel Macron voit qu'à droite et à gauche, c'est la division. Et bien lui, il fait des additions et des multiplications.
Mais Hervé, si c'est trop voyant, est-ce que ça ne risque pas de lui être reproché par ses adversaires ?
Mais c'est un risque, mais c'est un peu inévitable. Le CSA mesure les temps de parole à la radio et à la télé, mais on ne peut pas mesurer les dépenses d'un président candidat qui ont un but électoral, même si tout le monde sait qu'il y en a. Le plus dangereux pour Emmanuel Macron, je crois, c'est qu'on l'accuse de démagogie et de clientélisme parce que son socle électoral est plutôt celui des gens raisonnables. L'antithèse de Marine Le Pen, hein, on se souvient de leur débat en 2017, mais aussi une forme de modération face aux outrances de gens Jean-Luc Mélenchon et même de François Fillon qui promettait une réduction des dépenses publiques en forme de purge générale. La posture macronienne, c'était celle de l'audace dans les réformes et de la modération dans la gestion. Donc, le quoi qu'il en coûte, il a été légitime face à la pandémie. Mais si la sortie de crise approche, il serait probablement plus cohérent pour Emmanuel Macron de vouloir remettre le système à l'équilibre, donc d'avoir sinon une politique de rigueur, au moins une gestion rigoureuse.
Hervé, vous parliez de l'audace réformatrice qui était dans son ADN de candidat. Est-ce qu'Emmanuel Macron peut ou est-ce qu'il doit lancer des réformes d'ici à l'élection ?
Je crois qu'il y aurait intérêt, mais il y a toujours, vous savez, ce calcul chez les présidents sortants qui consiste à prendre de moins en moins de risques à mesure que l'élection approche et à se contenter de présider, donc à préférer l'incarnation à la transformation. Et puis à entrer en campagne le plus tard possible. Mitterrand, en 1988, s'était déclaré en mars. Chirac, en 2002, c'était en février. Le Sarkozy, de 2012, en février aussi. Et François Hollande s'est prononcé plus tôt, en décembre, mais c'était pour renoncer. Emmanuel Macron, lui, va prendre la présidence de l'Union européenne en janvier prochain. Ça va lui faciliter la tâche pour l'incarnation, mais ça va la lui compliquer pour la transformation s'il a des réformes en tête. Donc, s'il veut lancer le chantier des retraites, il aurait intérêt à le faire avant, mais avec le danger de susciter des blocages. Pour résumer, être président sortant, c'est un avantage, mais avoir peur de faire campagne et hésiter à réformer, c'est un piège.
Hervé Gattegno, directeur général des rédactions de Paris Match et du Journal du Dimanche. Merci à vous. Monseigneur Chauvet avec nous dans un instant, mais tout de suite un peu de musique sur Europe 1. Chris Rea. À tout de suite.
Europe Matin Weekend, Thierry Dagiral.
6h47, c'est notre interview du dimanche matin. Alors ça y est, les travaux vont pouvoir commencer en la cathédrale Notre-Dame de Paris. C'est la fin du chantier de sécurisation. Et c'est bien sûr tout un symbole en ce week-end des Journées du Patrimoine. Avec nous ce matin, Monseigneur Patrick Chauvet, recteur de la cathédrale de Paris. Bonjour.
Bonjour.
Merci infiniment d'être en direct à cette heure sur Europe 1. Monseigneur, l'incendie, c'était il y a 29 mois maintenant. Ça y est, donc la restauration va pouvoir commencer concrètement.
Eh oui, c'est pour moi, en tout cas, comme affectataire de cette cathédrale, je peux vous dire que c'est une joie profonde. Toute cette partie qu'on a vécue qui était dure, qui est la partie de la sécurisation. Mmh. Maintenant, je sais que la cathédrale est debout, elle restera debout. Maintenant, voilà, on va commencer la restauration proprement dite, c'est-à-dire c'est un chantier qui est énorme parce qu'il faut refaire les voûtes, il va falloir refaire la charpente, le toit, la flèche, nettoyer l'intérieur. Voilà, c'est un beau programme. Je suis dans la confiance parce que j'ai vu toutes celles et tous ceux qui travaillent dans cette cathédrale qui sont vraiment des gens extraordinaires.
On en parlait justement dans le journal de 6h30, il faut leur rendre hommage à tous ces métiers qui ont œuvré depuis 29 mois pour en effet que cette cathédrale tienne.
Oui, c'est un savoir-faire français et je dois dire que je suis particulièrement heureux parce que le lendemain de l'incendie, j'avais évoqué avec le président de la République que de ce drame, il fallait essayer de susciter des vocations pour ces métiers qui sont extraordinaires. Ils ont besoin de jeunes et donc il faut transmettre. Moi, je suis très marqué par cette transmission d'un savoir et je crois que ça va se faire et je suis heureux de ça.
Monseigneur Chauvet, ça va durer maintenant combien de temps ce travail? Quand est-ce que le public va pouvoir redécouvrir cette cathédrale?
Écoutez, le général maintient que c'est bien en 2024, en avril 2024. Alors, je ne sais pas si ça sera en avril, mais je compte quand même que, j'espère, en tout cas qu'en 2024, on pourra rentrer de nouveau dans cette cathédrale pour lui redonner vraiment le sens, le pourquoi de cette cathédrale, c'est-à-dire pour le culte, hein, pour la louange. On est là pour célébrer le Seigneur. Et donc, c'est vrai qu'avec l'archevêque de Paris, on attend ça avec impatience. Hein, et donc, j'espère qu'on va pouvoir... En tout cas, on est en train déjà, vous voyez, de préparer un petit peu ces liturgies pour que ce soit beau. Ça va sûrement attirer beaucoup de monde. Hein. Je me dis que pendant 5 ans, vous savez, il y avait 12 millions à peu près par an. Il y a 60 millions de personnes qui sont un peu frustrées. Donc, en fait, il ne faut pas qu'ils arrivent au mois d'avril tous ensemble parce qu'on n'y arrivera pas. Mais je pense que, voilà, c'est important.
Faites-moi une confidence. Refaire des messes dans cet endroit, est-ce que ça vous manque? Est-ce que vous pensez parfois à votre première homélie dans ce site en 2024?
Ah ben oui, ça me manque naturellement. Oh là là, vous savez, quand vous avez été recteur, que je suis encore recteur d'une cathédrale, ce qui est le cœur de ma vie, c'est la célébration de la liturgie. Donc il est vrai que, on est en manque. Je suis dans une très belle église, je suis à Saint-Germain-l'Auxerrois et tout va très bien. Mais c'est vrai que la cathédrale, j'ai mon cœur dans la cathédrale. Donc j'ai envie de retrouver ces beaux moments, cette liturgie, cette atmosphère, cette âme. Voilà. Il me manque l'âme de la cathédrale.
Bien sûr, et puis il y a l'attente de tous les Français, de tout le peuple français. On se souvient bien sûr de ces images qui ont fait le tour du monde. L'attente sera immense. Hein.
Tout à fait. Vous savez, je reviens des États-Unis et je peux vous dire que là-bas, à Washington, tous ces Américains étaient bouleversés. Il fallait voir quand ils me parlaient de l'incendie, ils pleuraient. Et donc, je leur ai donné une parole d'espérance en disant « Ne vous inquiétez pas, on est bien parti. »
Monseigneur Chauvet, ce matin en direct sur Europe 1, ce sont les Journées du Patrimoine. On met beaucoup d'argent sur Notre-Dame et c'est bien normal. C'est une promesse, en effet, vous l'avez dit, présidentielle. Est-ce qu'on en fait assez pour les petits monuments moins connus? Je pense par exemple aux petites églises aussi à l'abandon dans nos communes.
Eh bien, écoutez, je crois que surtout ça devrait motiver, en tout cas tous les fidèles, pour qu'on puisse. Non pas, je peux pas partager parce que malheureusement, je pense que toutes les sommes vont être englouties dans cette restauration. Merci. Et je crois qu'il faut, on peut pas se permettre d'être médiocre pour un tel monument. Mais c'est vrai que je crois que c'est un appel pour que tous on puisse sauver nos petites églises, par exemple, effectivement, dans nos communes de province, qui on voit les toits à moitié cassés, et l'intérieur où c'est. Non, je trouve que c'est notre patrimoine, mais c'est notre cœur, vous savez. C'est voilà, c'est là pour moi. Et c'est notre histoire, et on peut pas mettre une croix sur cette histoire.
On est dimanche matin, dernier jour pour visiter notre patrimoine, justement. Une idée de balade, un site que vous aimez, vous particulièrement. Allez, donnez-nous vos coins à vous de Parisiens.
Ah, mes coins de Parisiens. D'abord, j'espère que les gens vont aller sur le parvis de Notre-Dame.
Ouais.
Parce qu'on présente toutes celles et tous ceux qui travaillent. Donc je pense que ça, c'est très intéressant. C'est très intéressant. Et même si vous voulez apprendre le métier de cordiste, eh bien, vous pouvez même faire une expérience, vous voyez. Bon, mais enfin, moi, je ne l'ai pas fait. Sinon,
il y a des
vous avez...
que vous aimez particulièrement, que vous allez visiter, que vous pourriez visiter aujourd'hui, par exemple.
Que j'aimerais, Saint-Étienne-du-Mont, j'aime bien, parce qu'il y a un jubé extraordinaire. J'aime bien la petite paroisse qui est très belle de Saint-Pierre de Montmartre, qui est un petit bijou. Que vous dire, j'ai un faible pour Saint-François-Xavier, naturellement, parce que j'ai été curé et que l'église est superbe. Voilà, sinon, je crois qu'il faut tout simplement, je trouve, se promener dans Paris. Il n'y a pas beaucoup de monde, il n'y a pas trop de voitures. Voilà, regarder.
C'est la journée sans voiture en plus aujourd'hui.
Exactement, regarder.
Allez, je vous l'ai bien. Merci, grand merci à vous, Monseigneur Patrick Chauvet, ce matin sur Europe 1. Alors que la rénovation donc de votre cathédrale va pouvoir désormais commencer. Bon dimanche à vous. À 7h, vous retrouverez Thomas Lequertier pour la suite de votre matinale. De la musique tout de suite sur Europe 1 avec Oshi.